Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, la seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens. Il reste 3 journées de Ligue 1 et nos deux clubs nous offrent du suspense jusqu'à la fin de saison. Au sommaire ce soir, une victoire 2-1 au courage des 100 et or pourtant réduit à 10 contre 11 face à Reims. Lens est désormais assuré d'être sur le podium de cette compétition et donc au moins au tour préliminaire de la Champions League l'année prochaine. Bollaert va donc retrouver cette célèbre petite musique de la plus grande compétition européenne l'an prochain, 20 ans après sa dernière participation. Mais avant d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club, ce soir on va faire le point sur les précédentes participations lensoises en Europe. Et puis le LOSC, lui, va devoir batailler sur les 3 dernières journées pour garder cette 5e place. Le match nul 0-0 face à Monaco n'a pas permis aux hommes de Paulo Fonseca de faire fondre les 5 points qui séparent les deux équipes. Autre mauvaise nouvelle, Rennes qui revient à un point de Lille. Bonsoir d'abord à nos supporters en plateau. Bonsoir Patrice Clairaut et Alexandre Vianne.
Bonsoir.
Pour les Lillois et pour les Lensois. Et à vos côtés, Adrien Baudreau, journaliste à Horizon. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Vincent.
Et Guillaume Bataillet, journaliste à Heure 2. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et puis vous aussi, vous pouvez évidemment participer à cette émission grâce aux réseaux sociaux, à Twitter et au hashtag CopNord. On attend vos messages. Et on commence donc avec cette victoire du Racing Club de Lens face à Reims, résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
Même quand la plupart des éléments vont en défaveur du RC Lens, tout est bien, qui finit bien. Et vendredi soir, les Lensois sont parvenus à tenir le rythme en battant Reims 2-1. Le match ne pouvait pas moins bien débuter. Pénalty, carton rouge pour Kevin Danso et ouverture du score rémoise. Thomasson s'écroule ensuite dans la surface, pénalty à nouveau, les 100 et or égalisent. Avant que le capitaine Seko Fofana ne prenne ses responsabilités et fasse exploser Bollaert. Lens est deuxième à 2 points de l'Olympique de Marseille.
Lens est deuxième et Lens est surtout devenu une équipe chirurgicale, rapidement réduite à 10. Les 100 et or qui ont eu le ballon en fait que 40% du temps, mais les Rémois étaient très brouillons. 17 tirs en tout pour seulement 3 cadrés. Les Lensois, eux, qui ont tenté 8 tirs et cadrés 6 frappes. Une statistique aussi étonnante, ce nombre de corners. 14 corners Rémois, 0 pour Lens et aucun de ces corners qui a vraiment été concluant pour les Champenois. Est-ce que la défense lensoise, qui était pourtant réduite, ils ont joué à 4 notamment derrière, là aussi on voit qu'ils ont passé un stade sur ce genre de 14 coups de pied arrêtés, 14 corners et au final aucun qui est concluant. C'est pour vous positif ?
Bah carrément, on n'a pas vu une équipe réduite à 10 en défense. Ils ont subi, donc on a vu que le carton rouge avait eu un impact, mais en termes de solidité défensive, Lens reste la meilleure défense de Ligue 1. Et même si Kevin Danso est souvent nommé patron de cette défense, Medina et Gradit ont prouvé qu'il pouvait très bien faire sans justement ce patron de la défense.
Alors Adrien, ton top ?
Mon top, Przemysław Frankowski.
Pas facile à dire.
Moi, Fofana.
Fofana. Patrice.
Je me prononcerai pas, j'ai pas vu le match, pas avec honnêteté. Donc...
Bon, bah, au moins, c'est très honnête.
Fofana, ça va pas être très compliqué. Hein.
Fofana, effectivement, pour son but, pour l'importance qu'il a au milieu de terrain.
Il a montré que c'était le patron de l'équipe. Il est toujours très performant en ce moment, parce qu'il a eu un petit coup de moins bien. Mais là, il a montré que c'était le patron, que c'était entre guillemets la star, que c'était lui qui remontait l'équipe quand elle allait mal, puisqu'à 10 contre 11 contre une belle équipe de Reims, c'est pas toujours évident.
Exactement. Puis il prend ses responsabilités au meilleur moment de la saison. Et il l'a fait contre Marseille, il a marqué. Là, le but, il se le fait tout seul et il nous permet de nous replacer devant dans cette rencontre. Et après, on a, comme on le disait juste avant, la défense, elle tient. Maintenant, c'est solide. On a recoulissé à 4 derrière et à 2-1 pour nous, même si on était un de moins.
Même Frankowski, qui a joué son rôle de piston.
Oui, parce que justement, c'était une défense à 4, mais il a réussi à conserver son rôle de piston, à bien revenir et surtout à être présent offensivement. Après, il transforme le pénalty. Donc pour moi, ça me paraît évident. Puis c'est une sorte de montée en puissance aussi pour lui. Je trouve que le poste de piston droit dont il a hérité en début de saison, quand on regardait ses prestations au mois de septembre, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on a vues récemment. Et il y a une nette progression de sa part.
Alors revenons-en sur Fofana.
Juste pour terminer sur Fofana, justement, j'allais dire sur la dernière. Enfin, alors son but, il est incroyable, mais son attitude à la 94e quand il va presser jusque dans la surface de réparation adverse pour pas que Reims n'arrive à relancer, c'est vraiment symptomatique de tout ce que fait Lens depuis le début de saison. C'est-à-dire que même quand il reste que 1 minute 30, il s'est arraché, il est resté au sol à la fin de la rencontre, au coup de sifflet final, il était en course à haute intensité depuis un petit moment. C'est assez incroyable.
Ça montre l'état d'esprit d'un groupe. Et on voit, par exemple, que son but a aussi libéré les Lensois. C'était un peu ce que disait Florian Sotoca à la fin de la rencontre.
T'écoutes le public, t'écoutes la foule, tu vois, c'est courir de partout, tu vois les gars courir de partout. Donc voilà, c'est assez fou. Je sais pas vraiment si on réalise ce qu'on fait, parce que c'est une saison vraiment exceptionnelle. Personne nous attendait ici. Et après les matchs de Monaco, de Toulouse, de Marseille, voilà, c'était difficile de rebondir. Et on a encore fait, ce soir. Donc ça prouve qu'on est une grande équipe, qu'on mûrit, qu'on grandit. Mais il reste 3 matchs pour finir le plus haut possible.
Il nous reste donc les flops à aborder avec vous, Alexandre.
Danso, puisqu'il prend rouge, mais
Danso,
évidemment,
Danso, ouais. Limité, évidemment, pour ce geste. Alors, on explique effectivement, il y a une double sentence parce que donc il y a le pénalty qui est sifflé, mais c'est la faute est très particulière, c'est-à-dire qu'il joue absolument pas le ballon, et c'est pour ça que l'arbitre confirme donc ce carton rouge. Comment vous faire sans Danso à Lorient d'ailleurs ce week-end?
Bah,
jouer à 4,
même à 3, je pense qu'avec avec un petit Aïdara, justement défenseur central droit, je pense que ça peut être pas mal. Il l'avait déjà prouvé lorsque Gradit était blessé, la défense avait été plutôt solide. Donc défense à 4 ou défense à 5, il y aura toujours quelqu'un, et une défense toujours aussi efficace,
peut-être,
je pense.
Trop Nana, peut-être qu'il avait déjà essayé Nana aussi, ce poste là.
C'est vrai.
Nana qui a d'ailleurs payé merveille.
Donc pas une défense à 4 pour vous, c'est une défense à 3 quasi obligatoire.
Je pense qu'on va rester dans le même système.
Ouais, je pense
aussi. Et puis je pense que Franquès, s'il voit pendant 20-30 minutes que ça va pas, il repassera peut-être à 4 à ce moment-là.
Alors un petit mot sur les chiffres. Donc c'est le troisième rouge de Danso avec Lens, c'est le deuxième carton rouge direct. Et puis un autre fait, c'est Lens avait déjà été réduit à 10 à l'aller face à Reims après donc l'expulsion de Machado. Score final 1 partout. Lens qui a fait 3 matchs à 10 cette saison, une victoire donc ce week-end, le match nul face à Reims au match aller et la défaite donc à Paris. On se souvient du carton rouge de Salis Abdoul Samed. Une nouvelle fois donc Lens réduit à 10. On se souvient un peu de l'année dernière, ces exploits qu'on avait sur la fin de saison. Comment vous expliquez que Lens puisse encore aller chercher ses 3 points? C'est l'état d'esprit que tu soulignais tout à l'heure.
C'est ça ce qui est remarquable dans cette équipe, c'est que quoi qu'il se passe, l'équipe répond présent, que ce soit collectivement, même individuellement, on l'a dit avec Fofana. Ouais. Ils perdent quand même leur patron, la défense, au bout de 20 minutes. On l'a même pas remarqué.
Après, on a un peu. Y a Paris qui est devant, mais ce qu'on appelle entre guillemets la réussite du champion. Clairement, Reims nous donne le but, le premier. Il a
le aucune penalty,
raison de faire faute là. Il n'y a pas danger derrière. Et ça nous remet complètement dans le match. On a une réussite cette année qu'on avait peut-être moins les années précédentes.
Ça peut être l'expérience aussi, un peu. C'est un peu l'image
dans la gestion
de ce
match.
C'est-à-dire que Lens a beaucoup plus d'expérience, ça se voit. Là où Reims, c'est un peu le Lens de ces dernières années, un peu plus naïf dans certaines situations.
Je ne pense pas que ce soit. En termes d'expérience, c'est clair. Et c'est surtout que Lens a plus ou moins en fait, appris à jouer à 10. Et il a des postes bien particuliers qui font qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont en infériorité numérique. Et je reprends l'exemple de Frankowski. C'est qu'on a vu une équipe qui a subi, mais qui, à chaque fois, qui est réduite à 10. Même contre Paris, même s'il y a eu une défaite, le jeu était là et c'est vraiment la particularité de chaque poste, l'omniprésence de Fofana, l'omniprésence des pistons aussi avec Sotoka, Frankowski, avec Machado, qui fait qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'on a affaire à une équipe de 10 joueurs.
Alors je voudrais qu'on écoute Will Steele, l'entraîneur de Reims, qui s'était exprimé lui aussi après cette rencontre. Il avait un plan pour jouer face à Lens et alors c'est très particulier, l'expulsion pour lui ça a compliqué les choses. Écoutez,
même à 10, Lens reste. C'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, c'est quelque chose dans ce genre-là. En fait, tu prépares un plan pour jouer contre 11, et j'aurais été très très curieux de voir comment Lens aurait sorti, enfin, ou trouver des solutions, comment ils se seraient adaptés. Et puis ils sont à 10, donc le scénario du match est changé légèrement. Mais une fois que tu les laisses revenir dans le match avec un penalty, tu sais que le public va pousser, tu sais qu'il va y avoir un engouement autour du truc. Et je le dis, ça reste une équipe de qualité, même à 10, ils sont capables de. Ouais, de gérer des moments de match et des scénarios comme aucune équipe ne sait le faire pour l'instant.
Alors comment vous entendez ce discours? Est-ce que c'est pas flatteur dans le sens où ce qu'il dit en pointillé, c'est que c'est pas facile, c'est même pas un avantage d'être à 11 contre 10 contre Lens, ça reste plutôt flatteur si on entend ça.
Bien sûr. Quand on écoute les chroniqueurs, quand on écoute les coachs de Ligue 1,
on écoute Cop Nord aussi.
On écoute Cop Nord. On dit toujours que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 collectivement. Peut-être qu'après le loss, c'est joue peut-être mieux dans le jeu au niveau de la proposition. Mais ça reste la meilleure équipe de Ligue 1 collectivement. Il n'y a même pas de débat.
On est au bout d'un cycle de 3 ans. Le jeu mis en place depuis 3 ans est le même. La formation à Lens, on joue dans le même système. Les joueurs commencent vraiment à se connaître. C'est huilé. À chaque fois, on intègre un joueur. Mais le collectif fait sensiblement la même chose. Là, il y a les vieux Briscard. Sotoka, il jouait à Lens en Ligue 2. Aujourd'hui, il a progressé. C'est incroyable. Et je pense qu'on a des joueurs qui sont excellents avec nous. On l'a un peu vu avec Jonathan Clauss, c'est un cas particulier, mais ils se subliment à Lens. Là, ils sont à fond dedans. On est dans une vraiment une phase haute d'un cycle assez vertueux. Après, on sait très bien que dans le football, ça peut aller très vite, mais là, il faut vraiment savourer parce que c'est.
Et on parlait justement incroyable. De cercle vertueux. À noter que Loïs Openda est joueur du mois d'avril de Ligue 1. C'est la première fois depuis 2016, Edinson Cavani, qu'un joueur est à ce titre deux fois de suite. On l'a dit, donc Lens, qui est assuré d'être sur le podium, donc en Ligue des Champions. Pour l'instant, ça peut être aussi un tour préliminaire, mais ça va dépendre des trois dernières journées. Est-ce que vous savez à quand remonte la dernière campagne européenne de Lens?
2007.
Exactement. On peut faire un bilan, tout simplement, du parcours européen du Racing Club de Lens ces dernières années.
L'hymne de la Ligue des Champions résonnant à nouveau à Bollaert, ce pourrait être une réalité à Lens, et ce, dès la saison prochaine.
Dans nos carrières, personne n'a joué la Ligue des Champions dans notre effectif, donc c'est un rêve qui, je l'espère, va se réaliser et qu'on vivra encore ensemble des super moments et des moments comme ça. Il n'y a pas de raison. Si on continue comme ça, il reste 3 matchs maintenant, c'est 3 finales, on le sait, et on ne va rien lâcher jusqu'au bout.
La dernière fois que les 100 et Orion goûtaient, c'était en 2002. Une poule relevée, composée de la Corogne, du Bayern et de l'AC Milan. Mais s'il y a bien un match qui restera dans l'histoire européenne du club, c'est cette rencontre du 25 novembre 1998. La formation lensoise menée par Tony Vérel renverse Arsenal 1-0, la première victoire d'un club français à Wembley. Mais le groupe ne pourra faire mieux qu'une deuxième place, à l'époque non qualificative pour la suite de la compétition. En 2000, une demi-finale de la Coupe de l'UEFA, puis une Coupe Intertoto remportée en 2005. Voici à quoi se résume le palmarès européen du RC Lens, un palmarès qui ne demande qu'à être enrichi.
Si je devais vous demander votre meilleur souvenir de Lens en Europe.
C'est compliqué, j'avais 9 ans. Donc
voilà, mais justement, c'est ça qui est intéressant.
Moi, la Coupe Intertoto, parce que j'avais 15 ans et qu'on l'a gagné.
Le premier souvenir pour moi, c'est la victoire à Wembley.
Moi, c'est plus les choses que j'ai vues a posteriori quand j'étais pas né qui m'ont plus marqué que les choses que j'ai vécues elles-mêmes. Parce que voilà, c'était pas même la Coupe Intertoto, je devais avoir
16 ans. C'est la seule équipe française à avoir gagné à Wembley.
Le but de Utaka contre le Milan.
Ouais, il y avait le Milan à Bollaert.
Toi qui as le plus d'expérience, c'est comme ça qu'on dit quand on veut être poli.
Le but de Giggs à Bollaert. Ah non, c'était pas Lens. Non, plus sérieusement, ouais, non, je pense que le but à Wembley et cette victoire-là contre Arsenal, on gagnait pas les clubs anglais à l'époque. Et cette victoire-là. Et là-bas. Non, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ouais. Plus que la demi contre Arsenal également. Alors, c'est Europa League, c'était pas Europa League à l'époque, mais.
Et si on devait parler un peu pragmatique maintenant, il va donc falloir des renforts pour Lens. Mmh. On l'a vu cette saison, la période de creux hein, pour les Lensois, c'est justement quand il y a eu ces deux matchs par semaine. Là, il va falloir des renforts, il va falloir beaucoup de renforts, beaucoup de mouvements attendus pour vous cet été.
Bah après, moi, je tenais juste à dire, c'est que cette qualification européenne arrive au très bon moment parce qu'on va passer à une Ligue 1 à 18, donc il y aura 4 matchs de moins la saison prochaine. Quand on part du principe que Lens peut se qualifier en poule d'une Coupe d'Europe, enfin sera forcément dans une poule de Coupe d'Europe, c'est au moins 6 matchs en plus. Donc en fait, il n'y en aura que 2 en début de saison quand on regarde bien. Et donc en termes de renfort et de diversité de joueurs, forcément, il en faudra plus si on va plus loin. Mais pour l'instant, j'ai du mal à voir où. Si Francaise garde le même dispositif.
S'il n'y a pas de départ.
Arnaud Pouille a déjà annoncé que, Europe ou pas, il a dit ça il y a 2 semaines, je crois, on ne changerait pas de braquet complètement sur notre façon de construire l'équipe.
Moi, c'est la principale interrogation, c'est quel grand joueur de Lens va partir? Est-ce que Danso va partir? Fofana?
Danso est susceptible de partir. Fofana, il parlait même de, pendant un temps, que Lens irait essayer de voir avec Maxence Lacroix de Wolfsburg, il me semble.
Il y a eu des touches aussi avec Raphaël Varane.
Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est toujours de la spéculation. Ouais, voilà, c'est de la spéculation. Et puis, c'est en fonction d'un potentiel départ. Danso, si justement Lens est directement qualifié en Ligue des Champions, peut-être qu'il restera pour justement faire une saison et prendre encore plus de galons au sein du Racing.
Alors, on l'a dit, il y a Lens qui va jouer, on devrait pas se tromper en disant la deuxième ou la troisième place. Il reste 3 matchs pour les Lensois qui ont toujours 2 points d'avance sur l'OM. Un déplacement à Lorient dimanche, la réception d'Ajaccio qui est déjà relégué, et puis un déplacement à Auxerre. Et si on regarde à Marseille, eh bien l'OM va à Lille samedi, puis recevra Brest et ira à Ajaccio. Pour vous, qui a le calendrier le plus favorable?
Lens.
Lens.
Parce que je vois Lille gagner, moi.
Clairement, parce que Lens joue des équipes qui n'ont plus d'enjeu. Lille va devoir se donner contre Marseille, ce ne sera pas un match facile. Donc quand on regarde le calendrier qui attend les deux clubs, c'est clair que c'est Lens. Mais j'ai peur d'Ajaccio qui jouera très libéré avec la relégation.
Je te coupe, mais il y a une équipe, vous êtes en train de dire qu'elle ne joue rien. Je ne suis pas sûr qu'Auxerre
joue son maintien, bien sûr.
Auxerre, la dernière journée chez...
Ils seront peut-être maintenus.
Peut-être, mais aujourd'hui, ils ne sont pas. Et
Je préfère les prendre dans trois matchs que là, le prochain.
C'est clairement. Mais le dernier match à Auxerre peut être aussi d'une importance.
Mais moi, je reviens sur Marseille qui a peut-être le calendrier le plus facile ou au final, c'est assez équilibré.
Alors, Marseille. Alors,
très rapidement.
Alexandre, il dit que le LOSC va battre Marseille. Ça peut jouer effectivement là-dessus. Je pense qu'on en verra un peu plus clair la semaine prochaine. Il reste ces deux matchs-là, mais on verra comment
ça
se passe.
C'est Patrice qui en parlait dans le Cap Nord avant. Il y a le Lille à l'extérieur et le Lille à domicile. Les équipes, ils sont diamétralement opposées. Hein.
Ouais. Et du coup, la réponse à cette question pour toi, c'est
Lens. C'est Lens, mais après le calendrier, je ne sais pas trop, parce que Lens gagne contre les gros. Donc on va dire Lens a un calendrier défavorable. Et puis ça ne change rien, ils gagnent contre tous les favoris.
Mais ouais, on a parlé il y a quelques instants donc, du match à venir entre Lille et Marseille. Avant ça, on va revenir sur le déplacement de Lille à Monaco. Ce sera dans quelques instants après une très courte page de pub. À tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va donc maintenant parler du match nul frustrant, décevant, 0-0 à Monaco. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
Au bout de l'ennui, le LOSC n'est pas parvenu à s'imposer à Monaco, score final 0-0 au stade Louis II. La plus belle occasion en première mi-temps est monégasque, mais Lucas Chevalier s'interpose devant Boadou. En deuxième période, c'est le portier monégasque qui écœure les attaquants lillois cette fois. Timothy Ouéa a été le plus dangereux face à Noubel. Un but est même refusé à Monaco pour une position de hors-jeu. Superbe prestation défensive des Dogs, mais pas la meilleure des opérations au classement. Lille reste cinquième et manque l'occasion de revenir à 2 points. De son adversaire du jour avec ce match nul.
Un match stérile donc où l'enjeu, on peut dire, a dépassé le jeu. Monaco qui a verrouillé derrière Lille qui a peiné à se rendre dangereux. 59% de possession du ballon pour les Dogs, 10 tirs à 8. Les Dogs un peu plus précis mais qui n'ont pas donc pu faire évoluer le score et qui restent à 5 points de Monaco. Patrice, en deux mots, est-ce que tu penses que Lille peut rattraper Monaco à 3 journées de la fin et à 5 points de retard?
Tant que mathématiquement c'est jouable, je dirais oui. Et Monaco, je ne sais pas si on le verra après, mais Monaco a quand même un programme un peu sympa parce qu'ils ont Lyon, ils ont Rennes.
Évidemment qu'on va le voir, on va le voir dans quelques instants.
Tout est jouable.
Mais d'abord, donc, ton top, Patrice.
Top, Cabella.
Cabella.
Chevalier.
Chevalier.
Je vais dire Ouéa.
Ouéa.
Cabella.
Donc, on a double Cabella. Pourtant, une attaque lilloise assez muette. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous avez choisi Cabella ?
J'ai pas choisi Cabella, j'ai choisi Chevalier, moi.
C'est pour ça.
Cabella, là, il a.
Alors, pourquoi Cabella ? Pourquoi ? Alors, effectivement, en attaque, ça n'a pas été super florissant. Par contre, il a eu une capacité à ouvrir le jeu, à éclaircir le jeu, qu'il n'avait pas fait depuis 2-3 matchs, notamment à l'extérieur, à Auxerre, où il avait raté ce fameux but, mais il avait plein de choses comme ça. Mais vraiment, il a eu cette vision du jeu. Bon, ça n'a pas donné derrière. Mais je trouve qu'on a retrouvé le Cabella d'il y a 2-3 matchs.
Et ton flop ?
Le même que la semaine dernière, malheureusement, c'est Bamba.
Bamba.
Bamba aussi.
Bamba.
Pareil.
Bamba.
Pareil.
L'unanimité de Bamba, c'est raté, à qui commence à coûter cher ?
Les vendanges. Tu peux pas être un joueur offensif dans une équipe de haut de tableau de Ligue 1 et manquer autant de technique dans les derniers... Dans les derniers mètres, il est toujours... c'est brouillon, il manque d'altruisme. À un moment, il doit faire une passe à David ou Cabella qui sont en
c'est normal qu'un attaquant tente sa chance aussi à cette distance du gardien.
Ouais, mais lui,
surtout un attaquant manque de confiance.
Il tente sa chance, mais il n'en met jamais une.
Moi, donc, je le trouve compliqué. Beaucoup moins concerné depuis quelques matchs que...
Pour toi, il est déjà parti ?
Je sais pas s'il est déjà parti ou pas, parce qu'on parle de la Fiorentina, on parle de certains clubs, on sait qu'il est en fin de contrat, mais on voit sur certaines frappes, sur certaines choses, il le faisait pas il y a quelques mois non plus. Quoi.
Donc, alors beaucoup de frustration chez les joueurs lillois, et c'était en tout cas ce qu'on retenait du discours de José Font à la fin de la rencontre.
Frustré, on a besoin de 3 points, on sait, avant le match. Je crois que l'attitude était bonne. On se bat, après c'est contre un très très bon adversaire, dans un terrain très très compliqué parce qu'ils n'ont pas arrosé le terrain. Donc un jeu là, une pelouse difficile à jouer. On est toujours dans la lutte, on est toujours là pour la fin du championnat. Et on va tout faire chez nous maintenant, deux matchs, si on peut accrocher 2 victoires, phénoménal.
Alors, comme on l'a promis à Patrice, on regarde le calendrier des équipes qui jouent cette quatrième, cinquième place, voire même peut-être la sixième. On a donc Lille qui reçoit Marseille, puis Nantes et le déplacement à Troyes qui est déjà relégué. De son côté, Monaco va à Lyon et à Rennes avant de recevoir Toulouse. Et puis côté Rennais, déplacement à Ajaccio, puis Monaco donc. Et enfin, le déplacement à Brest, là, pour vous, en un mot, qui a le calendrier le plus facile ?
Lille.
Lille.
Rennes.
Moi, je pense que Lille, oui.
Lille et
Lille aussi, ouais.
Lille, donc, qui aurait l'avantage pour vous. Là, ce classement qu'on regarde là, donc avec Monaco 4e, Lille 5e et Rennes 6e, c'est le classement qu'on devrait voir à la fin.
Patrice parlait des maintenus, de la course au maintien. Il y a Nantes. Les trois derniers matchs, ouais. C'est Marseille la meilleure équipe à l'extérieur et le FC Nantes qui n'a pas acquis son maintien.
Nous, sur Nantes, on a juste une crainte, c'est qu'effectivement, ils ne seront pas relégables, je pense, quand ils vont venir chez nous dans deux journées, ils ne seront pas encore relégables. Et comme on sait que les gardiens à Lille, généralement, ça flambe, on a très peur de Lafont, qui est capable de nous faire une quinzaine d'arrêts. Mais je pense que si on passe Marseille, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on passe Marseille, on ne perd pas en tout cas sur Marseille. Monaco, sur le match Lyon-Rennes, ne prendra pas 6 points.
Et à noter quand même que face à Marseille, il y aura deux absents de taille. Hein, côté Lillois, la défense centrale, en fait, José Font et Alexandro.
Oui, mais il y aura Yoro Diakité ou Yoro André, parce qu'il a testé déjà André. Oui, Ismaili, ça c'est sûr. Il pourra peut-être mettre, je pense qu'il va mettre, pour moi, hein, il va mettre Diakité, remettre Ouéa sur le côté.
Et on espère évidemment que les Lillois seront nombreux hein, dans la Décathlon Arena pour mettre une ambiance incroyable.
Digne de ce genre de
ça
match.
Ça devrait l'être, de ce qu'on peut comprendre. De ce que nous,
en tant que supporters, on veut.
Eh ben, on sait tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, si on regarde le classement après donc cette journée, on l'a dit, Lens est deuxième avec 6 points de retard sur Paris, 2 unités de mieux que Marseille, Monaco à 10 points et Lille quatrième à 15 points avec désormais un seul petit point qui sépare de Rennes. Et au programme ce week-end, on l'a dit, Lyon-Monaco vendredi, Lille-Marseille samedi à 21h et puis Ajaccio-Rennes dimanche avant Lorient-Lens et Auxerre-Paris.